ne pense pas à cette évidence.
Magritte, interviewé par Jacques Gossens en 1965, dans ce même entretien, le peintre évoque ces mystérieuses figures qui apparaissent de manière récurrente dans ses tableaux.
On retrouve très souvent les mêmes figures.
Oui.
Prenons par exemple les rideaux.
Oui, les rideaux. Ou bien par exemple...
Quelle est la raison des rideaux, par exemple? Pourquoi les retrouve-t-on?
Ah, parce qu'ils existent.
Oui.
Je ne peux vraiment montrer que des choses qui existent.
Oui, mais d'autres choses existent également et qu'on ne retrouve pas avec une même fréquence.
Mais mon clavier est assez limité, comme celui de tout le monde.
Oui.
Je ne vois que des rideaux, des arbres, le
ciel. Grelots, les fameux grelots, d'où viennent-ils?
Eh bien, ça, ce sont les grelots, les sortes de sonnettes qui sont pendues au cou des chevaux.
Oui. C'est un souvenir de jeunesse aussi, ça.
Ah, je ne crois pas. Pas plus que les rideaux. Enfin, ce sont les choses que je vois dans le monde et que j'unis de telle sorte, enfin, que l'image que j'obtiens ne soit pas indifférente, qu'elle soit inconnue autant que possible.
Le ciel aussi a grande importance chez vous, le ciel, les nuages.
Ah, mais oui, le ciel... Nous le voyons toujours, enfin. On ne peut pas imaginer, on peut imaginer de vivre sans jamais voir le ciel
avec ses roches. Par
il vaut mieux ne pas y penser.
Ces rochers.
Eh bien oui, la pierre est aussi un être, à un être qui a de l'importance pour moi.
Peut-être, une importance particulière?
Mais peut-être bien, parce que je dirais que la pierre ne pense pas, alors que les autres choses, un meuble ou une maison, étant donné qu'elle a été faite par l'homme, il y a un peu de pensée
ça vous dérange.
Qui s'y attache.
Les balustres, par exemple, dont on parlait tout à l'heure.
Oui. Eh bien, les balustres, en somme, c'est ce que nous voyons en dessous des tables, ces pieds de table en bois tourné,
oui.
N'est-ce pas, qui apparaissent dans mes tableaux sans remplir le rôle de pieds de table.
Mais il y a tout de même des êtres humains dans vos
œuvres. Ah, nécessairement.
Des hommes, des femmes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on les voit rarement ensemble, pour ne pas dire qu'ils sont toujours seuls. L'homme est seul dans vos toiles, très souvent.
Oui, mais je ne crois pas que ça ait un sens... morale, pas plus que si je montre un arbre seul dans une plaine. Je ne crois pas qu'il faille donner à ça un sens de solitude.
Parce que la femme également se trouve seule.
Parce que s'il s'agissait de ce sentiment de solitude, ça serait peu intéressant à communiquer.
René Magritte, est-ce que pour vous le surréalisme est une esthétique?
Ah non! D'ailleurs, les surréalistes se défendent bien qu'on le comprenne ainsi. Le surréalisme n'est pas une école littéraire ni une école d'art. Les surréalistes utilisent les moyens littéraires et artistiques en vue de manifester ce que l'esprit peut dire. Et qu'il ne soit pas encore connu.
Autres éléments qui participent au mystère Magritte, les titres de ses tableaux en décalage complet avec les scènes ou les objets représentés sur les toiles. Des titres donnés et inventés le plus souvent par ses amis surréalistes, parmi lesquels Louis Kuttner.
Beaucoup de titres des tableaux de Magritte me sont dus à partir de 1950. Avant, c'est surtout Nouget qui donnait des titres. Puis Paul Collinet en a donné pas mal aussi.
Et justement, comment ça se faisait, Louis Kuttner, cette consultation dont vous parlez?
Eh bien, nous allions chez Magritte deux ou trois fois par semaine, généralement le soir, ou seul, ou avec des amis. Alors Magritte montrait une toile, il disait « Comment est-ce qu'on va appeler ça ?» Alors on se mettait à discuter, parfois pendant des heures, pour trouver le titre qui convenait à la chose, le titre qui n'était jamais descriptif, mais qui venait du plus profond de l'image.
Je crois que Magritte était un peintre essentiellement cérébral. Magritte voulait utiliser la peinture comme moyen de connaissance et de découverte, comme d'autres utilisent les mathématiques ou la physique ou le burin ou le marteau. C'était une sorte de mécaniste, si je puis dire. Magritte recherchait quelque chose de général ou quelque chose de particulier, et il pensait arriver à trouver ce quelque chose en utilisant la toile, le pinceau et la couleur.
René and George emigrate with their dog after the war. Return to their hotel suite and they unlock the door. Easily losing their evening clothes, they dance by the light of the moon. To the penguins, the moon blows, the Orioles, the five sevens, the deep forbidden music they've been longing for. Rene and George emigrate with their dog after the George and Magritte with their dog after the war. We're strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store. With all of the mannequins dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the penguins, the moon. Their dog après la guerre. Side by side they fell asleep. Decades gliding by like Indians, time is cheap. When they wake up, their dog after the war. We're dining with the power elite, and they looked in their bedroom door. And what do you think they have hidden away in the cabinet cold of their heart? The penguins, the moon. George and Magritte with their dog after the war.
René and Georgette Magritte with their dog after the war, une chanson de Paul Simon. Sorti en 1982. L'œuvre de Magritte ne cessera d'intriguer et de diviser. Écoutez le peintre surréaliste donner lui-même quelques éclaircissements à propos de sa démarche artistique dans cette interview enregistrée pour la radio en 1966, un an avant sa mort.
Il se fait que les tableaux que je peins ne sont jamais prévu longtemps à l'avance. Je ne décide pas de peindre telle ou telle chose à l'avance. Il faut qu'à un certain moment me vienne l'inspiration. Et c'est l'inspiration qui me dicte ce que je dois peindre.
Et alors, ça va très vite ou bien vous réfléchissez encore?
Ah non, dès que je sais ce qu'il faut peindre, il n'y a plus à réfléchir. La peinture sert pour moi, comme la grammaire pour un écrivain, à dire quelque chose. La peinture n'est pas mon but, mais la peinture sert à évoquer ce qui nous importe le plus, je crois, c'est-à-dire le mystère du monde.
Oui, je me souviens que vous avez entendu dire tout à l'heure « le visible cache le visible ».
Ah oui, ça c'est une précision qui n'est pas sans importance parce que l'on se demande parfois ce que cache ma peinture. Mais ma peinture, ce sont des images visibles qui ne cachent rien, elles évoquent quelque chose. Elles évoquent le mystère. Et en effet, quand on voit une de mes peintures, on se pose cette question simple. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut rien dire, car le mystère ne veut rien dire non plus. Il est inconnaissable. Il ne faut pas essayer d'expliquer le mystère. Il ne faut donc pas essayer de comprendre ce que ma peinture veut dire. Elle ne fait qu'évoquer quelque chose d'inconnaissable, donc d'irréductible, quelque chose d'inexplicable.
Pour prendre un exemple concret, je remarque cette belle toile ici. Un nid contenant des œufs, c'est bien un nid, ce n'est pas un symbole de fécondité ou de vie ou de naissance ou quoi que ce soit.
Non, bien sûr, c'est un nid. Et si j'avais voulu montrer la fécondité, ce dont je suis incapable, parce que la fécondité, ce n'est pas quelque chose de visible, c'est une idée. Je ne peux donc pas montrer la fécondité. Mais si j'avais pu, j'aurais montré la fécondité et non un nid.
Mais vous pouvez provoquer dans l'esprit de celui qui regarde la toile l'idée de fécondité.
Mais alors, il s'occupe d'autre chose que la toile. Il ne s'occupe plus de... Il s'éloigne de ce qui lui est montré. Si je lui montre un nid et qu'il pense à la fécondité, le nid n'a plus aucune importance, il pense à autre chose.
En somme, il donne une autre signification à votre toile.
Il donne une signification qu'elle n'a pas. C'est le droit du spectateur, bien sûr, comme c'est son droit de vouloir traverser un mur au lieu de sortir par la porte. Évidemment, c'est son droit.
Si je comprends bien, ça vous déçoit quand on interprète vos toiles.
Mais pas tellement, parce que je serais vraiment malheureux s'il fallait être déçu. Ça arrive tellement souvent que vraiment il faut... que j'en prenne mon parti.
Magritte connaîtra le vrai succès et la reconnaissance à la fin des années 50, notamment grâce à son marchand Alexandre Yolas, basé à New York. C'est là, au Museum of Modern Arts, le MoMA, que Magritte a l'occasion de présenter une rétrospective de son œuvre en 1965. Envers et contre tout, René et Georgette Magritte resteront unis jusqu'au décès du peintre en 1967, des suites d'un cancer du pancréas. Une dizaine d'années plus tard, en 1978, Georgette Magritte, interviewée par Michel Cédric, parle de son défunt mari avec beaucoup de tendresse et d'admiration.
Mais il a donné beaucoup aussi. Mon mari était un homme très généreux. très, très généreux. Parce que vous savez, ici, à part celui-là que mon mari a fait, pour moi, les autres... Et l'autre qui est là-bas, c'est le dernier tableau qui était sur son chevalet. C'est le dernier tableau fini. Il était encore sur son chevalet quand il est mort. Moi, j'ai eu un mari qui était très bon. Il était très sensible. Il avait bon cœur. Il était généreux. Pour lui, il ne demandait jamais rien que des livres. Ça, des livres, ça, il aimait d'avoir. Acheter des livres. Mais c'était pas un homme qui aimait d'acheter un bijou, bien une montre. On ne savait pas lui faire plaisir avec rien. Et ce qu'il il aimait beaucoup la musique aussi. Acheter des disques, ça, il aimait, la musique classique.
Qu'est-ce qu'il aimait? Il aimait Bach, il aimait Schoenberg?
Il aimait surtout Debussy et Ravel.
Ah bon? Mais vous parliez de votre mari, vous parliez de toutes ses qualités, il en avait énormément, mais est-ce qu'il n'était pas un petit peu pessimiste, un petit peu négativiste?
Oui, je vous dis qu'il était d'une nature pessimiste et inquiète. Mais il avait ses bons côtés aussi, bien entendu. Il ne démolissait pas tout ce qu'il voyait, au contraire. Il y avait beaucoup de choses qu'il aimait. L'argent ne l'intéressait pas, d'ailleurs. Il savait bien qu'il en fallait pour vivre, bien sûr, mais ça ne l'intéressait pas du tout, ni la valeur que ce tableau pourrait avoir dans 100 ans, ça ne l'intéressait pas. Non, c'était pas un homme intéressé, c'était tout le contraire.
Vous parliez tout à l'heure de Iolas.
Iolas, oui, c'était son marchand.
Oui, et je crois qu'il n'y avait pas de contrat qu'il avait signé, il n'y avait aucun contrat signé entre eux, mais à un moment, déjà vers les années 59, il y a plusieurs marchands très importants qui avaient envie qui voulaient lui faire des ponts d'or pour ses toiles, et jamais il n'a accepté parce qu'il a dit, oh non, je vais donner ma parole à
Iolas. Ah oui, Iolas. Il était très honnête. Hein? Ah oui, il était très honnête. Quand il disait quelque chose, eh bien, il gardait ça. Il avait promis quelque chose, il n'avait pas eu de contrat écrit, bien sûr. Mais il tenait tout de même à continuer avec Iolas, qui avait toujours été, qui avait toujours bien défendu sa peinture. Alors, seulement un jour, elle a quand même dit à Iolas, moi, je dois tout de même garder quelques tableaux ici, parce que j'aime tout de même qu'il y ait quelques tableaux en Belgique, parce qu'il avait des gens ici qui lui demandaient pour acheter un tableau. Mais Iolas voulait tout louer.
On a voulu en faire un baron de votre mari.
Oui, oui. Enfin, on lui avait demandé, oui, en effet. Mais
ça l'a amusé.
Il a refusé. Il a dit, je veux bien comme un homme compte. Oui, mais attention, il a dit ça pour se moquer. Mais baron, ça ne m'intéresse pas. Il ne voulait pas des honneurs.
C'est formidable parce que quand on revoit, on parle d'une exposition, on sait toujours que Georgette était près de René, toujours à côté de lui.
Ah ben, formidable. Écoutez, nous avons vécu 45 ans ensemble. Alors vous pensez, ça peut compter quand même. Mon mari n'est plus là. C'est comme s'il était parti en voyage, par exemple, parce qu'il vit vraiment encore dans la maison. Son esprit est toujours ici. Ah oui, d'un côté, oui, mais vous savez, c'est quelquefois triste aussi. C'est quelquefois triste parce que je sens combien il manque aussi. Moi, je vis encore avec lui, si vous voulez. Et ça, c'est quand même important. Parce que ça m'aide aussi à continuer à vivre comme je vivais autrefois.
Je pense que le monde est un mystère et que le mystère, on ne peut rien en dire et que donc, ça ne peut pas être un sujet d'angoisse ni d'espérance.
Magritte n'est pas un mystère au fond non plus.
Ah si,
ah.
Nous sommes tous un mystère. Nous sommes une partie du monde qui est un mystère lui-même.
Alors vous et votre œuvre, c'est un peu comme une clé sans serrure.
Ah oui, c'est une serrure sans clé. Ou une clé sans serrure, oui.
écoutiez Le Fantôme de la radio, une émission écrite et réalisée par Éric Lauze avec le précieux concours de la Sonuma, l'entreprise qui sauvegarde les archives audiovisuelles de la RTBF. Les séquences et interviews que vous avez entendues sont extraites des émissions suivantes. L'Hebdo avec un reportage de Pascal Premont et Marc Bouvier, Rencontre avec Michel Cédric, L'œil écoute, Autour de René Magritte de Lucien de Roisy, Entretien avec René Magritte de Jacques Gossens, Interview de Christian Bussy par Jean-Pierre Van Tighem. Après les informations de 19h, place à Alexandra Bassen et Sacré Français. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre écoute et votre présence. À la semaine prochaine.